L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur l'autre radio et dans votre émission quotidienne, l'AJT du local. Bonjour Claire, comment ça va ?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Eh bien, il y a un direct à Laval toujours et ouais, ça va. Ce matin, un peu plus chaud qu'hier, donc ça fait plaisir. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. À une semaine de Noël, il fait 12 degrés, tout va bien. Aujourd'hui, hormis la météo, on va parler donc d'un livre, résultat d'un an de recherche, un nouveau livre de l'association du Mémorial des Déportés à Mayenne qui sort aujourd'hui. Il est consacré aux résistants d'Ambrières-le-Grand. À Château-Gontier, le centre médico-psychologique pour les enfants et les adolescents a eu très chaud cet été, alors non pas à cause de la météo, mais parce qu'il a été menacé de fermeture. Il a finalement pu rouvrir avec deux pédopsychiatres supplémentaires. Les salariés des CMP de toute la Mayenne se sont mobilisés dans ce but, on entendra leurs témoignages. Et un dernier cadeau sur notre liste au Père Noël mayennais, la Christmas Bouette.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, à la veille des vacances, situation épidémique stable dans la région.
Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence s'élève à 84,5 sur 100 000 habitants et le taux de positivité à 5,3%. Même si la contamination est en légère hausse dans le département, en Pays de la Loire, 195 clusters sont enregistrés, un EHPAD sur 5 concentre des cas de Covid.
À Mayenne, le lycée Rochefeuille fermé à cause du Covid.
Une salariée de la restauration et de l'entretien du lycée a été testée positive hier. Ses collègues sont donc cas contact et la restauration ne peut rouvrir, notamment pour les internes. Le proviseur a donc décidé de fermer l'établissement aujourd'hui. Vacances anticipées donc pour près de 500 élèves.
Nouveau décès sur les routes en Mayenne.
Un cycliste âgé de 63 ans a percuté une voiture. L'accident s'est produit hier vers 16h sur la départementale 149 à Trans, au nord-ouest du département. L'homme est décédé sur les lieux de l'accident, mais le conducteur de la voiture, lui, n'est pas blessé. Depuis le début de l'année, 9 personnes sont mortes sur les routes en Mayenne.
Un nouvel accident ce matin, près d'Ernée.
Oui, moins grave. Hein. Vers 10h30, un poids lourd s'est couché au niveau du rond-point de l'échangeur de la D-35 vers Chaillan. La départementale 31, justement, est fermée à la circulation en ce moment en sortie de Chaillan et une déviation a été mise en place.
Collectivités et associations du secteur culturel réunies à Nantes.
Autour du préfet de région Didier Martin pour plancher sur le soutien et la relance du secteur culturel. Alors que les musées, salles de spectacle, théâtres et cinémas sont fermés au moins jusqu'au 7 janvier. En 2020, dans la région, 261 millions d'euros ont été mobilisés pour le chômage partiel, le fonds de solidarité et l'année blanche pour les intermittents. Didier Martin a annoncé la création d'un comité régional des professions du spectacle et de l'audiovisuel consacré au dialogue sur l'emploi.
Le théâtre du Tiroir à Laval, bientôt reclassé en lieu de culte.
En tout cas, c'est la demande qu'a formulée Jean-Luc Bansard, le directeur du théâtre au préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel. Il demande le reclassement du théâtre, anciennement chapelle, en lieu de culte, ce qui lui permettrait de recevoir 30 spectateurs et de maintenir les représentations annoncées de la création du petit théâtre, la Reine des Neiges. 14 classes et 4 établissements avaient réservé leur place avant le confinement, bien sûr.
Et le foot, Laval joue ce soir contre Bastia Borgo.
Les Tangos se déplacent en Corse ce vendredi, match prévu à 18h30. Les Lavallois 7e tenteront de s'imposer face à l'équipe 13e du classement de National.
Et sur la route du Vendée Globe, des changements dans le peloton de tête.
Alors pas vraiment à la première place hein, puisque c'est toujours Yannick Bestaven qui est leader, mais il est suivi de très près par Charlie Dalin qui a repris la place de Thomas Ruyant en difficulté. Maxime Sorel sur son bateau VNB Mayenne, lui est toujours 11e à 820 000 nautiques du leader. Et puis, vous le savez, comme tous les vendredis, on feuillette le Haut-Anjou avec vous. Et en une, aujourd'hui, une étudiante de 23 ans du Haut-Anjou, de Poincé plus précisément, près de Segré, qui a voyagé 5 mois au Brésil et qui a réalisé un reportage sur l'impact des barrages. Son témoignage donc est à lire dans le journal. Et puis aussi, après avoir découvert les coulisses du carré la semaine dernière à Château-Gontier, plongée dans les coulisses de la station d'épuration à Cran, en photo, là aussi, des fausses Défausse façon, clarificateurs et tables d'égouttage n'auront plus de secret pour vous. Pour moi, ça en a encore un petit peu, vous l'entendez. Et puis, à Château-Gontier, la féminisation des rues est en cours, puisque le conseil municipal a voté le nom de l'allée Françoise Sagan. Et puis d'autres rues devraient, elles aussi, prendre le nom de femmes. Tout ça, c'est à lire dans le Haut-Anjou de cette semaine, qui est donc sorti aujourd'hui. Témoignage précieux de résistants à Ambrières-le-Grand, l'ancien nom d'Ambrières-les-Vallées, et oui, puisqu'on parle du réseau de résistance dans les années 1943 et 1944. C'est le sujet du nouvel ouvrage publié ce vendredi par l'association du Mémorial des députés des déportés à la Mayenne. Des témoignages avaient été recueillis autour de cette commune dans les années 90, mais les bénévoles ont poussé plus loin les recherches, contactant les familles, cherchant de nouvelles archives pour un livre complet sur la résistance à Ambrières-le-Grand, comme l'explique Élodie Roland, la coordinatrice du Mémorial des déportés de la Mayenne.
C'est un petit peu un état des lieux au début de quel était l'état d'esprit de ces personnes qui ont ensuite se sont engagées dans la résistance. Donc voilà, au moment de l'occupation, comment ça s'est fait, quelles ont été les premières actions menées. Plus les mois passent, plus le groupe s'étoffe, plus ça se structure, on va dire. On cite bien sûr quelques actions phares. Je pense notamment au sauvetage d'aviateurs américains qui se sont posés de force à Ambrières en décembre 1943 et dont le groupe de résistants a assuré l'exfiltration, entre autres, en collaboration avec d'autres. Et on parle surtout dans le livre de la grande arrestation qui a eu lieu en mai 1944, donc de tout ce groupe. Et bien sûr, ensuite de leur déportation. Et on va même au-delà de la déportation, puisqu'on évoque l'après-guerre, au lendemain de la guerre aussi, bien sûr. Donc comment ils ont fait pour ceux qui ont survécu, comment ils ont fait pour revenir, quelle a été leur vie juste après, et comment ont vécu aussi les familles qui n'ont vu rentrer personne. Mais on a voulu qu'il y ait beaucoup de photos, pour aérer aussi le texte, le témoignage, parce que ça reste... Parfois, il y a des passages quand même qui sont assez durs quand ils parlent de leur déportation. Ça peut être assez dur à lire, mais à la fois, voilà, il y a des photos, des archives inédites. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage qui se veut largement accessible, même pour un usage pédagogique. C'est-à-dire que ça peut faire l'objet d'une étude en classe en lien avec le programme d'histoire-géographie, par exemple. Donc c'est vraiment un usage divers de cet ouvrage. On est allé à Paris, en fait, aux archives
nationales,
et on a pu voir un autre. Ça nous a vraiment permis de prendre du recul aussi et de voir ce qui est ressorti aussi à l'échelle nationale de par ces dossiers-là. Donc c'est assez intéressant de confronter ça et de consulter ça. Après, on a eu aussi la bonne surprise de correspondre avec un des fils des aviateurs américains sauvés par le groupe de résistants. Je correspond avec lui, là, qui est un monsieur qui habite les États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est au-delà d'Ambrières et du canton d'Ambrières, ces recherches. Et c'est vrai que voilà, il me semble important de transmettre cette mémoire-là pour qu'il y ait une trace écrite, on va dire, de leur parcours.
Et voilà, nos petites excuses pour cette musique qui a voulu se lancer pendant le son. En tout cas, on rappelle le titre de ce livre, Résistance et déportation à Ambrières-le-Grand, 1943-1944. Il est en vente dès cet après-midi au Mémorial sur réservation et dans quelques supermarchés et librairies à Laval, Mayenne et Ambrières-les-Vallées. Un CMP sauvé de la fermeture, un centre médico-psychologique de Château-Gontier, a rouvert ses portes en septembre après plusieurs mois d'arrêt, l'occasion de rappeler le rôle des professionnels qui y travaillent. Interview à suivre dans 3 minutes, juste après avoir écouté Step de Vampire Weekend.
Every time I see you in the world, you always step to my girl. I used to front like Angle at Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. Well, home in New York with champagne and disco, tapes from LA / San Francisco. But actually, Oakland and Al Alameda, your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Love's a love, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my
my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the high. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Ancestors told me the dagger was better. She's richer than Croesus, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Still, conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together, well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Aster. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. On about. I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Traded for youth, age is an honor to stand out the truth. We saw the stars and they hid from the world. You cursed the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, but girl, you're not old yet. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the high. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Gloves are off. The wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. Stronger now, I'm ready for the high. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone.
Every time I see you in the world, you always step to my door.
Jusqu'au bout, donc, la chanson de Vampire Weekend, Step, sur l'autre radio. Vous écoutez l'agité du local. Par manque de moyens humains, le centre médico-psychologique de Château-Gontier a fermé ses portes pendant quelques mois, laissant de nombreux enfants et adolescents sans suivi médical et psychologique. La situation s'est depuis améliorée, puisque deux pédopsychiatres sont arrivés sur le département en septembre pour intervenir à Château-Gontier, mais aussi à Laval, Mayenne, Ernée et Évron. Mais tout n'est pas encore rose, puisque la mission de ces soignants, alors que la mission de ces soignants est toujours aussi importante, rencontre avec trois d'entre eux qui travaillent eux au CMP de Laval. Une petite précision avant de commencer l'interview, la file active, c'est bien le nombre de patients vus au moins une fois dans l'année.
Muriel Gatinel, je suis infirmière sur le CMP.
Donc moi je suis Odile Rimbaud, je suis orthophoniste.
Et Guillaume Mian, je suis psychologue.
Alors, elles sont arrivées, du coup, un psychiatre une journée à Château-Gontier et puis une pédopsychiatre sur un 80%, je crois.
La particularité de la pédopsychiatrie, c'est que c'est un service qui s'occupe de tout le département de la Mayenne.
Justement, le fait qu'il y ait eu cette fermeture du CMP de Château-Gontier pendant le confinement et un petit peu après, ça a eu des incidences sur les autres lieux de soins dans le département ?
Directement, non. Si ce n'est l'inquiétude de voir nous les antennes fermées aussi, peut-être, sur Ernée et Évron, vu qu'à un moment donné, on n'avait plus de médecins non plus. Donc, il a fallu que les médecins se redéploient au niveau des structures et qu'il y ait l'arrivée d'une nouvelle professionnelle sur Château-Gontier, ce qui a permis après de se réorganiser sur Ernée et Évron. Mais voilà, après, on avait la file active aussi, on peut peut-être dire ça, qu'on n'a pas accédé aux nouvelles demandes, en fait. On est resté avec notre file active existante parce qu'on ne pouvait plus, du coup, avec le manque de médecins, avoir de nouveaux patients.
Est-ce que c'est la même situation dans d'autres départements ou ça fait longtemps, en tout cas, que ça se passe comme ça ?
Bah, cette situation-là, elle est nationale. La question de la pénurie de médecins et toutes disciplines confondues et des déserts médicaux. Et effectivement, en Mayenne, là, on a été particulièrement touchés ces derniers mois, mais c'est une situation qui est nationale et qui malheureusement ne va pas s'arranger dans les années à venir. Ça, c'est sûr, vu au regard de la démographie médicale. Ouais.
Donc là, c'est quand même un petit soulagement qu'il y ait deux personnes supplémentaires, j'imagine, qui soient arrivées quand même, malgré tout.
Ah oui, oui, c'est sûr. Ça paraît, évidemment. Bah, déjà, le CMP de Château-Gontier a pu réouvrir. Et puis, oui, même au niveau des autres CMP, ça, c'est pas du tout négligeable, en effet. La difficulté qu'on rencontre, c'est que... les CMP donc, sont sous la responsabilité médicale. La problématique, c'est que, du coup, là, quand il y a un manque de médecins, c'est tout le monde qui est à l'arrêt. Mais il y a d'autres professionnels, il y a des orthophonistes, des psychomotriciens, des infirmiers, des psychologues, qui, du coup, ne peuvent plus exercer non plus, ne peuvent plus recevoir de patients, alors qu'ils ont du temps et qu'ils peuvent travailler. Ça met les choses, ça empêche beaucoup de choses.
Donc ça veut dire que vous-même avez été à l'arrêt alors que vous auriez pu travailler ?
Ah bah sur le temps Covid, c'était particulier, mais oui. Après, le fait qu'on n'avait plus de médecins, le fait qu'on ne puisse pas prendre de nouvelles situations. Parce que c'est vrai que, comme dit Odile, on est sous couvert médical, mais toutes les problématiques ne relèvent pas forcément du médecin. Il y a du coup des observations qu'on peut mettre en place, des suivis infirmiers ou autres qu'on peut mettre en place, et le médecin n'intervient pas directement. Nous, on peut en parler, et ça, c'est intéressant du coup, et puis ils engagent quand même leur responsabilité au niveau du soin, mais après, on peut travailler sans médecin présent 24/24, quoi. Mais,
on a pu continuer les suivis déjà engagés. Mais c'est vrai que souvent, au départ, le médecin rencontre les enfants avant qu'orthophonistes, psychomotriciens et infirmières puissent les voir.
Est-ce qu'on peut déjà rappeler un petit peu quel public est-ce que vous accompagnez ?
Le CMP, c'est un lieu en fait, qui s'adresse à tout enfant en fait, qui présente une souffrance, quelle que soit l'expression de sa souffrance. Et donc, ça peut aller à ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles qui sont peu invalidants jusqu'à des cas très graves avec des situations très complexes et pour lesquelles il y a besoin d'une équipe qui travaille ensemble avec plusieurs prises en charge associées.
Donc c'est pour ça que là, je parlais en tout cas au début des pédopsychiatres, mais il y a aussi... Vous en faites partie de toute cette équipe justement qui travaille autour. Donc ça veut dire que pendant quelques mois, vous avez été arrêté aussi. Et quel est l'impact en tout cas pour les enfants et les adolescents qui ont peut-être pour certains pas pu tous aller à Laval, puisque je crois que c'était ça la solution qui a été proposée.
Nos collègues de Château-Gontier ont dû revenir travailler à Laval pour certaines. D'autres ont été redéployés dans d'autres services. Et forcément, toute la file active, il a fallu... identifier, prioriser les patients. Et donc, tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir venir.
Et quel est le risque dans ces cas-là ?
On en laissait un peu de côté.
Le risque pour les enfants, c'est que les symptômes soient plus importants. Ça porte à la fois sur les enfants qui peuvent du coup majorer leurs symptômes, mais aussi sur les familles qui se retrouvent toutes seules à devoir accompagner leur enfant. Et ça, c'est une charge très très lourde. Et puis aussi, on travaille beaucoup avec les écoles, donc c'est pareil pour les écoles. Elles doivent travailler un peu seules avec des enfants qui présentent des symptômes qui peuvent être très importants. Les symptômes sont divers et variés, plus ou moins invalidants, comme disait Guillaume. Alors, ça peut être des troubles du sommeil, des troubles du comportement, des troubles du langage, des troubles moteurs. Enfin voilà, tout un panel et parfois tout ça en même temps. Enfin voilà, un petit peu les symptômes qu'on peut rencontrer. Comme on a du mal à accueillir les gens qui viennent, bah, des fois il y a des listes d'attente longues, alors qu'en effet ce serait plutôt pertinent de les voir très rapidement, en effet.
Vous parlez de longues listes d'attente, en général on est sur combien de semaines, voire de mois, je ne sais pas.
Peut-être sur une petite année là.
Même en ce moment, on ne prend plus les premières demandes, donc même on réoriente les gens vers le libéral.
D'accord, et c'est quand même un souci, puisque justement, l'une des particularités du CMP, c'est bien que c'est public et donc accessible à tous aussi.
Ouais. En tout cas, je vous donnerais bien une définition personnelle de ce que j'entends par CMP, parce que centre médico-psychologique, c'est vrai que c'est un terme, pourrait dire, un peu bureaucratique et on a du mal à deviner un petit peu qui ça concerne, en quoi ça consiste, etc. Moi, je redonnerais bien ces lettres de noblesse à l'ancien terme de dispensaire. Le dispensaire, c'est un terme que je trouve intéressant parce qu'il est équivoque et il y a deux sens. C'est-à-dire que le premier sens, c'est une réunion de professionnels différents qui dispensent des soins gratuitement ou une forme d'assistance, quelle qu'elle soit. Et le dispensaire, c'est aussi, étymologiquement, c'est l'ouvrage dans lequel, qui sert à la préparation des remèdes. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'on a à la fois le côté réunion de professionnels qui travaillent ensemble autour d'une même situation et aussi un lieu qui est un lieu à part dans la cité, où il y a quelque chose d'un traitement possible de la souffrance de l'enfant qui va pouvoir s'écrire et qui va peut-être, en tout cas c'est ce qu'on vise, déboucher sur une solution, une solution qui sera pas, qui sera à chaque fois singulière, pour justement voilà revenir un petit peu et qui sera pas dans le sens commun.
On est quand même dans une société qui chiffre beaucoup et ce qui vaut c'est le chiffre. Or en pédopsychiatrie comme Guillaume le disait, c'est la parole qui compte. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire valoir. Et pourtant, c'est l'essentiel de notre travail. C'est-à-dire que c'est le fait, d'abord, on fait un accueil de parole de la souffrance de l'enfant et de ses parents aussi. Alors, comment mesurer les effets que ça peut avoir? Vous disiez, c'est vrai, le fait qu'ils ne viennent pas, ça a forcément des effets. Seulement, comment les mesurer, c'est extrêmement difficile. Et c'est aussi extrêmement difficile de mesurer dans la durée. C'est un travail de fond qu'on fait. C'est un travail de fond. Et parfois, ils ne viennent plus. Ça ne se voit pas tout de suite, les effets. Le pari qu'on fait, nous, c'est que c'est essentiel pour l'avenir, pour plus tard, dans sa construction aussi d'adulte. Et ça c'est on peut le dire, on le soutient, mais c'est extrêmement difficile à faire valoir pour demander des sous pour ça, par exemple, pour nos dirigeants, voilà, qui font un vrai choix de société par rapport à ça. C'est un vrai choix de miser sur le soin apporté aux enfants et à leurs parents aussi. C'est un choix, mais pour plus tard et pour dans très longtemps, mais qui vaut certainement la peine, mais d'après nous. Voilà.
Et vous pensez que c'est pour ça que la psychiatrie, peut-être la plus particulièrement même la pédopsychiatrie, est un peu le parent pauvre de l'hôpital et de la médecine de manière générale? Parce qu'on ne peut pas mesurer justement concrètement, pratiquement ce que ça produit?
Je pense que ce qu'il faut... Je crois qu'il faut vraiment... distinguer le quantifiable et ce qui va être parce que finalement les patients ils peuvent très bien témoigner de l'intérêt qu'ils trouvent à venir au CMP au un par un, au cas par cas et je donne un exemple récent d'une réunion que je faisais dans un collège où les effets des fois c'est quasiment immédiat sur des enfants qui vont très mal à l'école et où il y avait quelqu'un qui me disait mais finalement cet enfant-là, mais alors depuis qu'il va au CMP, c'est plus du tout le même enfant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui effectivement ne sont pas de l'ordre du mesurable, mais qui ont un impact très important sur la vie de l'enfant et sur son inscription à l'école ou dans le lien social en général.
Est-ce qu'il y a aussi parfois, alors bon, déjà il y a des longues listes d'attentes, mais aussi une crainte des parents à venir vous voir parce que c'est admettre aussi qu'il y a un souci. Et puis l'étiquette, alors psychologue ou psychiatrie peut faire peur ou est-ce que vous le ressentez pas du tout comme ça ?
Ça peut intervenir et là c'est là où il y a les différents partenaires qui interviennent. Souvent il y a l'école. S'il y a des éducateurs, mais c'est vrai que l'accompagnement des parents est important, mais c'est là où, après un premier rendez-vous, nous, on fait ce pari-là, d'essayer d'accompagner aussi, pas que l'enfant, mais ce qu'il y a autour, quoi. Et que, comme disait Guillaume, les répercussions après se font progressivement, mais travail de confiance et d'alliance thérapeutique à faire.
Ouais. C'est ça, oui. Je trouve qu'il y a plusieurs choses dans votre question au fond parce que à la fois il y a quand même je pense que la politique qui a de santé publique qui a prévalu jusqu'à maintenant, je trouve qu'elle a quand même contribué, et puis aussi avec la diffusion du phénomène psy dans la société, ça a quand même beaucoup démocratisé et allégé la question d'aller à la rencontre d'un psychologue, d'un psychanalyste, d'un psychiatre. Voilà, pour des gens, je trouve que quand même c'est peut-être un peu moins compliqué. Par contre, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que au niveau du CNP, comme il y a plusieurs professionnels à intervenir, ça permet justement d'entendre aussi les craintes des gens qui peut-être ne veulent pas rencontrer certains professionnels et préfèrent en rencontrer d'autres, et de faire un accueil en fonction de ça, c'est-à-dire en fonction de la demande très particulière d'une famille qui va dire « moi, je préférerais m'adresser à un tel, moi, je préférerais m'adresser à un tel ». Et au fond, c'est ça, l'intérêt du CMP, c'est qu'on peut accueillir cette demande singulière parce qu'il y a cette diversité de professionnels qui intervient.
C'est un outil précieux, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce genre de structure ailleurs. C'est vrai, c'est la spécificité quand même de la pédopsychiatrie, et que ça, c'est un outil très, très précieux de pouvoir... proposer différentes prises en charge, différents types de prises en charge aux enfants.
Est-ce que vous avez peur que ce soit un peu mis en danger avec ce manque de moyens humains aussi, tout simplement ?
Oui, on a peur. Puis il y a déjà eu des services à fermer. Hein. Il existait un service très intéressant de périnatalité où on pouvait accompagner des femmes enceintes et puis après, dès la naissance. Voilà, donc ça, c'était un accueil vraiment très spécifique et très intéressant. Il existait aussi un accueil familial thérapeutique, où là, c'était des familles d'accueil, mais vraiment dans le soin, voilà, qui pouvaient prendre les enfants dans le projet de soins. Donc voilà, il y a déjà eu des choses qui ont dû s'arrêter. Et bon, voilà, donc on craint, oui, c'est vrai.
Quelle serait la structure idéale pour vous pour vraiment réussir à accompagner correctement les enfants et leurs parents ?
À la base, au niveau des ETP médicaux, c'est 9 temps médical qui est indiqué. On l'a dit tout à l'heure, on arrive à peine à 5, quoi. Donc, dans l'idéal, dans ce qui avait été pensé pour la Mayenne, on est bien en deçà. Donc, on s'adapte depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vrai que si...
C'est paradoxal parce que le nombre de demandes augmente. On voit bien quand même que les troubles des enfants sont quand même de plus en plus nombreux. Donc, c'est paradoxal. Avec une exigence pour les enfants, parce qu'on voit aussi dans le médico-social des structures fermées, avec une exigence que les enfants soient scolarisés en milieu ordinaire. Donc, c'est un peu paradoxal tout ça.
Une situation qui s'explique aussi par les problèmes de recrutement des médecins en Mayenne et le fait que peu de médecins choisissent cette spécialité en pédopsychiatrie. On revient d'ici quelques minutes, juste le temps d'écouter The Way You Used to Do de The Queens of the Stone Age. Yeah. Of the Stone Age, The Way You Used to Do, sur l'autre radio, dans l'émission évidemment L'Agité du Local. Et comme tous les vendredis, vous le savez, on fait le tour du service civique dans la région avec notre chronique hebdomadaire proposée aujourd'hui par Jet FM à Nantes, qui donc est allée rencontrer l'association Style Alpaga, qui traite de la question de l'insertion à travers un outil pédagogique, la création textile. Zora Zawini, responsable de l'association, souhaite d'ailleurs recruter un volontaire en mission de service civique, et ce, dès le mois de janvier.
S'engager de 6 à 12 mois dans un projet collectif d'intérêt général, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans, pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Quels constats du côté des structures accueillantes? Quels atouts et quels freins? Volontaires en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Style Alpaga est une association créée en 1993 et implantée dans le quartier populaire de Bellevue, dans l'agglomération nantaise. Style Alpaga traite de la question de l'insertion à travers différents projets et l'accueil de jeunes de 13 à 30 ans autour d'un outil pédagogique qui est la création textile. Zora Zawini est la responsable de l'association qui souhaite recruter une personne en service civique en 2021. Zora nous éclaire sur ce choix de recrutement tout en pointant une certaine lourdeur administrative liée à l'accueil d'une personne en service civique. Mais dans un premier temps, elle nous apporte quelques précisions à propos de Style Alpaga.
Alors en interne, en fait, on a plutôt un public féminin parce qu'on travaille sur le rapport au corps, à l'intimité, et que c'est plus simple de traiter de ces questions-là entre pairs. Mais par contre, nos projets sont mixtes et intergénérationnels hors les murs. Alors Style Alpaga a fait le choix d'accueil d'un service civique déjà l'année dernière. Bon, c'était un peu complexe parce qu'on a eu aussi une période de confinement. Et effectivement, sur l'année 2021, on souhaiterait également réitérer notre demande. Et en fait, c'est vrai que ce qui a simplifié, ce qui a motivé aussi l'accueil de service civique, c'est qu'il y a eu tout le volet administratif qui a été allégé, puisque nous, en fait, on le co-construit avec la Fédération Animation Rurale 44. Le volet administratif, pour plein d'autres choses, ça prend énormément de temps, je pense, au détriment, en fait, de l'accueil déjà du public. Et puis l'accueil aussi, je pense, de service civique qui doit être accompagné, qui doit être soutenu pendant cette période de volontaire. On a bien pris conscience qu'un service civique est un volontaire et non un salarié qui doit en fait qui doit pallier au manque. C'était plutôt aider à l'organisation d'événements. C'est-à-dire en fait, je pense que c'est un double enjeu, autant pour le jeune où il va acquérir des compétences, travailler peut-être sur des manques, et puis peut-être aussi l'association l'outiller à mettre en place des activités et avoir aussi un recul, le recul de jeunes en fait qui arrivent à l'association et qui peut être aussi à l'initiative de certaines actions, mais toujours accompagné et outillé par l'équipe éducative. Alors il est important en fait quand on accueille un service civique de pouvoir mettre en place un ensemble de choses. Déjà je pense un outil, enfin qui est plutôt un ordinateur, de l'imprimante pour qu'il puisse aussi aller sur internet faire des recherches. Il peut être aussi outillé par rapport à peut-être des documents, la mise en place de projets, comment ça s'articule. Et puis je pense aussi le volet communication, où c'est vrai que les jeunes maîtrisent plus internet, et je pense que là c'est aussi de lui donner parfois aussi des missions qui l'intéressent et qui va pouvoir mettre en œuvre lors de son accueil au sein de l'association. Alors en fait, nous, on souhaiterait accueillir une personne sur à peu près 2021, dès janvier. Alors nous, on a une possibilité déjà de personnes parce que on envoie la mission, c'est une plateforme de service civique. Et là, il y a une personne avec qui déjà on travaille, qu'on accompagne, qui est en attente d'un BTS pour l'année prochaine et qui serait complètement ravie parce que c'est une année finalement qui va être un petit peu dans sa recherche. On va l'accompagner pour sa recherche de son alternance. Et puis en même temps, si elle peut bénéficier, parce qu'elle connaît aussi un peu l'association. Alors je disais, c'est un peu aussi du donnant-donnant, quoi. Ça va, je pense, lui permettre d'acquérir des compétences. Et puis nous, l'association, comme cette personne, on la connaît aussi, je pense qu'elle pourra aussi aider à organiser des événements sur 2021.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
La chronique est à réécouter comme toutes les autres sur notre site l'autreradio.fr. Et puis c'est le dernier épisode de notre série des cadeaux locaux à mettre sous le sapin, consacré aujourd'hui à la Christmas Boîte, une initiative de 7 commerçants du centre-ville lavallois qui ont décidé de s'associer fin novembre pour proposer le meilleur de leurs produits en un seul cadeau. Parmi les commerçants qui y participent, Nadège, la gérante de la penderie d'Angèle, se souvient de l'origine du projet.
À l'annonce du confinement, on s'est dit qu'il fallait impérativement se réunir pour puiser et mettre notre énergie dans quelque chose de positif. Et donc, c'est l'histoire de 7 copains qui s'appellent et puis qui se disent quelque chose de beau à faire pour nos commerces à chacun. Donc, on a créé la Christmas Boîte. Donc, c'est un petit clin d'œil au patois mayennais. Et à l'intérieur, on a essayé d'y glisser tout ce qui fait nos différences, donc à nos commerces, à chacun. Donc, il y a le talent de Sylvie Pelé avec un joli bouquet de fleurs, le savoir-faire de Nadège et de ses conseils. Donc, Nadège, c'est Mom Concept Store, c'est un magasin pour les enfants avec un beau puzzle en bois. Moi, j'ai glissé un bon d'achat de 15 euros. Charlène, qui a l'Institut Vert, donc elle y a glissé des produits Avril, donc des produits bio. Et puis on pensait aussi à Maxime qui a le Castelneuf, donc qui fait partie de ces bars qui sont fermés. Donc lui a proposé du coup deux cocktails de Noël en attendant la réouverture. Donc là les clients pourront lui rendre visite dès qu'il réouvrira. Et tout ça a été mis joliment dans une belle boîte et c'est Romy qui est à la tête de Kerma Étiquette, donc c'est une société qui est familiale et elle est spécialisée dans les cartes de visite, l'étiquetage, le ruban pour les professionnels. Et donc elle nous a proposé d'emballer cette jolie boîte. On se disait qu'il y avait des box qui existaient et que on voulait pas la jouer individualiste avec nos chèques cadeaux boutique par boutique, même si c'est très bien et voilà. Mais on a eu beaucoup de retours le jeudi de la fermeture de clients qui nous disaient on sera là, on veut vous soutenir. Et on s'est dit que il fallait peut-être pas qu'ils aient à choisir et qu'au final c'était un beau cadeau que de leur montrer que bah on savait aussi travailler ensemble et que c'était ça la force du centre-ville. Et on a même envisagé nous après d'en créer d'autres si l'occasion nous est donnée de nous retrouver. Au contraire, on a pris plaisir à travailler ensemble et nous qui sommes à la tête généralement de nos boutiques seules, et ben comme ça fait du bien de travailler à plusieurs. Moi j'en ai envoyé une à côté d'Angers d'une mayonnaise pure souche qui voulait offrir ça à ses parents mais qui est partie s'installer là-bas et j'ai trouvé ça super et elle me dit bah nous on avait envie de ça, on a envie de vous encourager à distance et voilà, si ça peut vous aider un peu et ben c'est avec grand plaisir qu'on le fait.
Toutes les Christmas boîtes sont au prix de 99,99€ et disponibles chez les 7 commerçants. Vous n'êtes pas obligé de réserver, mais si vous voulez être sûr de la retrouver, c'est conseillé. La box est disponible jusqu'à la fin du mois. Et on termine cette émission avec notre rubrique initiative, Claire, avec bien sûr une question qu'on se pose peut-être tous là à une semaine, bientôt Noël et toujours pas de cadeaux.
Et oui, le musée d'art naïf et des arts singuliers à Laval a pensé à vous et vous propose différents jeux de cartes dérivés de leur collection permanente. Il y a un jeu de 7 familles, de domino, de memory et de mistigri. Ces jeux sont contenus dans des pochettes en coton naturel et sont pensés pour une prise en main agréable même pour les enfants. Les jeux sont disponibles en prenant rendez-vous directement au musée et il faut appeler avant de s'y rendre au 02 53 74 12 30 et vous avez jusqu'à ce soir 18h.
À Cran, une réflexologue offre des séances aux commerçants.
Céline Frémondière est réflexologue au lieu-dit La Puce à Cran et a décidé depuis ce deuxième confinement d'offrir aux gérants de bars et des restaurants dans un rayon de 20 km une séance d'une valeur de 40€. La réflexologie s'appuie sur les terminaisons nerveuses, notamment des pieds, et apporte un réel moment de détente. C'est une façon pour la naturopathe de soutenir ces commerçants qui sont dans une période de stress constante et qui se sentent en plus ignorés. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous au 06 42 44 69 82.
Envie de rejoindre une aventure artistique ?
La compagnie éphémère et le chorégraphe Christophe Garcia vous proposent de les rejoindre pour un spectacle hors norme au musée Robert Tatin de Caussy-le-Vivien. Il faut avoir une pratique régulière de la danse et minimum 16 ans pour faire partie du spectacle. Il se passera, si le contexte sanitaire le permet, le samedi 19 juin 2021 avec de nombreuses répétitions tout au long de l'année. C'est une occasion unique de danser avec des professionnels dans un décor unique qu'est celui du musée. Vous avez jusqu'au vendredi 8 janvier pour vous inscrire. Et pour plus d'informations, consultez le site Mayenne Culture et tapez « Danser avec la parenthèse ».
Merci beaucoup Claire pour toutes ces initiatives. On va aller très très vite et te souhaiter de bonnes vacances puisque tu nous rejoins donc le 4 janvier. Et donc nous on se retrouve évidemment ce lundi juste après, il y aura Cinérama et à 18h notre émission spéciale « L'allée des baisers » ne manquez pas.
L'agité du local sur l'autre radio.